Nous n'aurons pas physiquement l'occasion de marcher 300 ans avec le Seigneur, mais l'important, c'est que notre finalité soit que nous sommes avec lui. Alléluia. Marcher avec le Seigneur, eh bien, cela signifie aussi avancer, progresser. Amen. Aller de l'avant. Et je crois que chacun d'entre vous souhaitait aller de l'avant avec le Seigneur. Cela doit être notre priorité. Mais je voudrais m'adresser tout au début à ceux qui peut-être n'ont pas commencé à marcher avec le Seigneur. Vous savez que pour aller loin, de toute façon, il faut toujours faire le premier pas. Et il y a ceux qui n'ont pas encore fait le pas. Et ce pas, je vous en supplie, faites-le aujourd'hui. Car la parole de Dieu dit qu'il y a deux chemins. Un chemin large et spacieux, dans lequel beaucoup passent et il mène à la perdition. Puis il y a un chemin étroit et resserré. Celui-là, il mène à la vie éternelle. Et il est dit, efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite. Et je crois que chacun d'entre nous, si aujourd'hui nous marchons avec le Seigneur, nous avons fait ce pas. Et ce pourrait bien que quelqu'un au milieu de nous soit là en se disant, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je vous en prie, Jésus est venu pour vous sauver. Il y a un pas que lui a fait, c'est le pas de son grand amour. Il est venu jusqu'à nous. Mais le pas qu'il ne pourra pas faire à votre place, d'où il n'y a aucun forcing, c'est cela qui vous incombe. Vous pouvez faire le pas pour dire « Jésus, sauve-moi ». Mais me direz-vous, est-ce vraiment important? Est-ce urgent? Et je crois que Blaise Pascal disait « Nous courons tous vers le précipice sans peur ». Après avoir mis quelque chose devant nos yeux pour nous empêcher de le voir. Et que de gens courent vers la tragédie éternelle et ne s'en rendent pas compte parce qu'il y a quelque chose qui leur barre l'intelligence et les aveugle. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire le pas. Le reste, nous allons y arriver. Mais qui n'a pas encore accepté Jésus ? Qui encore vit dans le péché et est tout tremblant à l'idée de la mort? Bien sûr, aujourd'hui, on peut apprivoiser la mort avec des théories qui ne tiennent pas la route devant Dieu. On peut essayer de mettre le déni en pensant « je suis jeune, j'ai le temps ». Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Je vous en supplie, venez à Jésus maintenant, parce que c'est le moment où il vous attend. Il vous aime tant qu'il veut vous sauver aujourd'hui. Et je pense que il y a des moments où le Seigneur dira, je vais garder ton départ. Le départ, jusqu'à l'arrivée, bien sûr, mais ton départ, il le faut. Alors je regarde dans la parole de Dieu qu'il y a des moments où le Seigneur a dit, il écarte toutes les ténèbres, il écarte Satan du tour de vous, les mauvais esprits qui tournoient dans votre tête pour vous empêcher de vous convertir. Et dans ces moments-là, il dit, je garde ton départ, c'est-à-dire aujourd'hui, tu as une intersection où tu dois accepter le Seigneur. Je vois dans la parole de Dieu que même un démoniaque rempli de démons, une légion, ils n'ont pas pu l'empêcher, les démons, de venir à Jésus. Et Jésus l'a délivré entièrement. Je crois qu'il y a des moments spéciaux où le Seigneur garde notre départ, mais il faut en profiter. Comme dans une ambiance comme celle-ci ce matin, saisissez la grâce, engagez-vous. En invoquant le Seigneur, lui disant qui vous êtes, et croyant que lui, il peut vous sauver parfaitement. Amen. Vous savez, il y avait un brigand sur la croix à côté de Jésus. C'était l'heure des ténèbres, le rendez-vous des ténèbres. Personne n'aurait pu être sauvé à ce moment-là. Même lui, il injuriait Jésus. Mais le Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu, a gardé le départ pour cet homme qui, ce brigand, se tourne vers Jésus en lui disant « Souviens-toi de moi !» Et Jésus de lui dire « Je te le dis aujourd'hui, tu m'accompagneras au paradis. » Il gardera ton départ. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui ton départ? Oui, je veux le croire. Viens à Jésus tel que tu es. Ne te laisse pas reprocher ton passé en disant « Je suis trop lamentable, je ne peux pas » ou « Je n'ai pas tout réglé ». Le Seigneur ne te demande pas de régler tout. Il te dit « Tel que tu es, là, dans ce départ, je te garde pour que tu répondes à mon appel. » Amen. Fermons un instant les yeux et prions pour que celui qui veut être sauvé soit sauvé aujourd'hui. Tout ce que je vais vous dire ensuite ne peut être compris que s'il y a eu ce premier pas de départ. Seigneur, puisque tu es là et que ton esprit agit, Seigneur, il y a un homme, une femme, un jeune qui était là, Seigneur, il ne s'était pas du tout attendu à venir aujourd'hui. Toujours repoussé, toujours pensé que ce n'est pas le moment. Mais là, Seigneur, tu as repoussé en un instant toutes les ténèbres, toutes les idées, toutes les philosophies, tous les prétextes. Et Seigneur, dans ce carrefour où tu l'attends, elle t'invoque, te dit, Seigneur, sauve-moi, pardon. Et là, maintenant, Seigneur, à l'instant, puisque le salut peut être immédiat pour quiconque invoque Jésus, Seigneur, tu les sauves. Seigneur, tu les sauves, bien sûr. Je ne te supplie pas de les sauver. Tu as déjà tout accompli. Tu dis, croyez. Si vous croyez, vous serez sauvés. Croyez à Jésus et vous serez sauvés. Alléluia, Seigneur. Parce que maintenant, le pas a été fait. Ils ont été, Seigneur, ainsi transportés des ténèbres à la lumière du royaume de Satan, au royaume du Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. Alors je crois que maintenant, ton esprit est avec eux et ils n'auront qu'une envie, c'est de marcher avec le Seigneur jusqu'à l'arrivée, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. C'est parti. Vous marchez avec le Seigneur. Nous marchons tous avec le Seigneur. Il y a des conditions que l'on ne peut pas laisser passer. Il est dit, marchez en nouveauté de vie. Et c'est vrai que lorsque Jésus vient nous sauver, il ne vient pas dire, voilà, je t'écris dans le livre de vie, c'est vrai, mais il vient aussi habiter chez nous. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses désormais seront passées, tout sera passé, et toutes choses vont devenir nouvelles. Amen. Et ça, c'est la marche. Il est dit ne plus marcher comme les païens. Éphésiens 4, 17. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Alors, nous n'avons pas aujourd'hui à critiquer les païens, nous étions de leur nombre. Nous vivions insensés, dans le péché, asservis à toutes sortes de mal. Nous étions aussi dignes d'être repoussés, haïs par Dieu. Et pourtant, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avions un comportement païen parce que notre intelligence était obscurcie. Nous étions ballottés par la puissance des ténèbres à faire ce que nous ne voulions pas. Par nature, nous étions esclaves. Mais quand Christ est venu, il a mis sa personne par le Saint-Esprit en nous. Et cette nouvelle nature, maintenant, nous indique le chemin à suivre. Nous voulons marcher en nouveauté de vie et ne pas marcher comme les païens. Juste, je vous invite à faire cette lecture dans Galates chapitre 5 et le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et puis nous lisons également dans 2 Corinthiens, attendez, je n'ai pas le passage sous les yeux, mais déjà cela suffit, pour dire que nous ne devons pas nous comporter comme les païens. Et dans le passage que j'ai en mémoire de 2 Corinthiens, il est dit, « C'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. » Et il est dit, « Maintenant, je ne vous dis pas de ne plus avoir relation avec ceux qui sont impudiques, immoraux, ravisseurs, et ainsi de suite. Mais ceux qui se nomment frères sont ainsi dans l'immoralité et dans le péché. » Ce qui veut dire, c'est que maintenant, on ne peut plus nous reconnaître avec un comportement païen. Il n'est pas question d'une religion, il n'est pas question de savoir si dans nos traditions pentecôtistes c'est comme ça et ce n'est pas ainsi ailleurs. Il est question de la parole de Dieu qui nous dit d'obéir et de ne pas marcher comme les païens. Et nous le savons qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a de plus en plus de dégradation, d'immoralité. Tout ce qui est impudique est affiché au grand jour. Et nous le savons que, comme le disait quelqu'un autrefois, que nous sommes des pécheurs en danger de devenir de plus grands pécheurs encore. Et c'est vrai que le monde est en train de s'enfoncer dans les ténèbres, dans le péché, dans la dégradation. Mais qui va relever le défi? Nous qui voulons marcher dans le Seigneur et ne plus marcher comme les païens. Il est montré qu'il faut savoir fuir l'iniquité, fuyez les passions de la jeunesse. Si vous invoquez le nom du Seigneur, éloignez-vous de l'iniquité. Ça, c'est une marche. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui le luxe, eh bien, de marcher juste à la frontière. On n'y est pas dedans, le mal, mais on y est au ras. Ça, le Seigneur ne le veut pas. Dans la prière qu'il a enseignée, vous direz aussi, ne nous induis pas en tentation, c'est-à-dire, aide-moi à ne pas m'approcher de la tentation, mais plutôt à fuir, à m'en aller, à m'en éloigner, parce que si je m'en approche, je risque à y tomber. Car la démarche pour m'approcher, elle est un indicateur que quelque part, on rentre dans la convoitise et dans le jeu et dans la marche de Satan. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de fuir la corruption, la perversion qui est en train de gagner l'humanité. Mais c'est comme ça que nous arriverons à les sortir des ténèbres, si nous sommes lumière, si nous sommes le sel de la terre. Marcher en nouveauté de vie, marcher comme des enfants de lumière. Des enfants de lumière, mais cela veut dire que l'on est éclairé. Et que même si je vous dis cela ce matin, vous êtes déjà au courant. Vous le savez. Autant avec les prédications que vous entendez que la Bible que vous pouvez lire chez vous, vous le savez que c'est vrai. Nous sommes éclairés. Mais si nous n'éclairons pas ceux qui sont dans les ténèbres, c'est qu'il y a quelque chose. ou alors nous sommes encore dans la pénombre. Il ne faut pas laisser d'obscurité en nous, c'est la lumière. Que je vive dans l'Église, que je vive sous les regards des serviteurs de Dieu ou le regard des chrétiens, ou que je vive dans le désert ou dans un endroit reculé au monde où personne ne me voit, je suis lumière. Je ne marche pas comme un païen. Si vous me faites un effet surprise d'arriver à 4 heures du matin ou le soir tard, vous ne devez pas trouver que vous me surprenez dans des choses mauvaises, malhonnêtes, impures. Et cela, pourquoi ? Parce qu'on est lumière et que l'on ne se cache pas. En tout cas, on ne pourra jamais se cacher de Dieu. Il n'y a pas de ténèbres, d'endroit où le Seigneur ne puisse aller et regarder, puisqu'il est conscient de notre inconscient. Il sait très bien ce qu'il y a tout au fond de votre cœur, ce que vous nourrissez, ce que vous pensez. Alors, on ne peut pas se dérober devant Dieu. L'important, c'est ça, marcher en tant qu'enfant de lumière. Seigneur, tu vois qui je suis, je ne peux rien te cacher, tu peux arriver précipitamment, comme la parole de Dieu dit, à toute heure de la nuit ou du matin. Seigneur, je ne serai pas surpris. Bien sûr qu'il y a la surprise tout à fait raisonnée, mais je ne serai pas surpris au point que, attends Seigneur, je n'ai pas réglé cette affaire. Nous devons marcher dans la lumière et autant vaut tout régler maintenant que de penser pouvoir le régler à quelques secondes de l'arrivée du Seigneur ou de la mort. Marcher d'une manière digne du Seigneur, Colossiens 1:10, digne du Seigneur. Le Seigneur a besoin de représentants, et vous êtes tous les représentants du Seigneur. Vous êtes tous les ambassadeurs de Christ. Il faut véritablement projeter par notre vie la personne de Jésus. C'est pour cela qu'à l'époque, pour la première fois à Antioche, on appelait les disciples chrétiens, et on voulait dire, c'est des petits Christ. Regardez comment ils vivent, comment ils s'aiment, comment ils se comportent. Leur message pouvait durer 5 minutes, mais leur vécu durait toute la vie. Et c'était ça le message que Dieu voulait. Nous devons être dignes, marcher comme un chrétien et ne pas avoir besoin de laisser à certains le soin de nous trouver quelque chose. Ayez un bon comportement, afin que si les gens veulent parler, ils soient confus de ne pas trouver en nous un comportement semblable au comportement des païens. Celui qui veut marcher avec le Seigneur doit marcher humblement. Humblement, ça veut dire que, Seigneur, tu peux regarder tous les frères et sœurs du monde entier. Ça serait bien s'il y en avait au moins 1 milliard. Mais j'en suis pas certain. Mais que tu regardes, Seigneur, tous les frères et sœurs, il n'y en a pas un qui soit plus grand que l'autre. Il n'y en a pas un qui a une plus grande valeur devant tes yeux qu'un autre. Nous sommes tous des pécheurs rachetés par grâce, et c'est la grâce qui a fait que nous sommes devenus ce que nous sommes quand nous marchons avec lui. Alléluia. Le Seigneur demande que tu marches humblement devant lui. Jésus a dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Humiliez-vous donc sous la puissante main du Seigneur, il vous élèvera, et c'est quand il y a l'humilité du Seigneur que nous pouvons marcher comme il le veut, humblement. Ces deux hommes priaient au temple. Un disait, je te loue, de ce que je ne suis pas comme le reste des autres, qu'ils soient adultères, ravisseurs, méchants. Je jeûne, je fais. Et l'autre, il était le publicain. Sois apaisé devant moi, Seigneur, je suis un pécheur. Lui, parce qu'il s'est humilié, dira le Seigneur, il a été entendu. Attention, l'orgueil, c'est ce qui a fait tomber Lucifer. C'est ce qui a fait tomber. Et je crois que le Seigneur veut que nous soyons humbles. Amen. Marcher avec le Seigneur. Il est dit que certains ont marché et un jour ils se sont égarés. Donc ils ont marché au sens inverse. Il est dit dans Ésaïe 1 que certains sont revenus en arrière. Pourquoi ? Pourquoi ils ont marché en arrière ? 1 Timothée 6,10 nous est dit qu'ils se sont égarés loin de la foi à cause de l'amour de l'argent. L'argent, vous le savez, c'est un dieu, faux dieu bien sûr, c'est Mammon. Et qu'est-ce qui fait marcher le monde ? Qu'est-ce qui fait que le monde s'engloutit de plus en plus ? C'est l'amour de l'argent, toujours plus, jamais satisfait. Nous, nous ne devons pas marcher comme les païens. Le Seigneur sait ce que nous avons besoin et il dit qu'en lui demandant, il peut donner de bonnes choses à tous ceux qui le lui demandent. Mais quand le cœur est attaché à l'argent, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est aussi coupable que la divination. Quelqu'un qui est idolâtre, eh bien, c'est comme quelqu'un qui est dans la sorcellerie. C'est quelqu'un qui a laissé quelque chose d'autre que Dieu prendre la place dans son cœur. Qu'est-ce qui nous tient aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous fascine ? Qu'est-ce qui nous fait avancer ? Quelles sont les motivations de notre existence et de nos projets ? Est-ce l'argent ? Ce serait trop grave. Mais le Seigneur, lui, il est dit le marchand de perles. Quand il a vu la perle de grand prix, il a vendu tout ce qu'il avait pour prendre, acheter celle qui était la perle de grand prix. Et n'est-ce pas cela qui nous est arrivé ? Pour le Seigneur, c'est lui qui compte le plus. Le reste nous sera donné de surcroît, mais le Seigneur avant tout, il est la perle précieuse de grand prix. Amen, frères et sœurs. Amen. Parce que certains se sont égarés loin de la foi, parce qu'ils ont été attrapés par l'amour de l'argent. Marchons d'un même pas, frères et sœurs. Il est dit au point où nous en sommes arrivés, marchons d'un même pas, Philippiens 4, 16. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans notre église locale, il y a un règlement intérieur et il faut s'y soumettre. Ça ne veut pas dire ça. Nous sommes dans la pluralité, nous sommes différents, nous avons reçu des dons différents. Mais comment pouvons-nous marcher d'un même pas ? Ça veut dire que notre marche doit être en référence à la parole de Dieu. C'est incontournable. C'est pas chacun fait ce qui lui semble bon, comme au temps des juges. Marcher d'un même pas, c'est marcher, se diriger d'après la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est important. Pourquoi telle personne se permet cela et elle se dit chrétienne ? Ah, moi, je ne le ferai pas ? Ça veut dire que chez nous, eh bien, chacun peut prendre la parole de Dieu à la carte ? Cela veut dire que marcher d'un même pas, nous avons vu la parole de Dieu. Et nous le savons, quand nous regardons les uns les autres marcher, nous le savons que certains, parfois, ne marchent pas d'un même pas. Et que le Seigneur nous aide à nous réaligner selon la parole de Dieu. Pourquoi moi je me permettrais de médire, de critiquer quelqu'un ? Et une autre personne est toute tremblante, elle n'a pas envie de critiquer, je ne veux pas juger. Mais une personne totalement libre peut juger X, Y et tout ça, et trouver encore des arguments que, eh bien, c'est bon de le faire. Marchons d'un même pas, le Seigneur dit, de ne pas juger. et de ne pas regarder et apercevoir toujours la paille dans l'œil de son frère, car cela veut dire qu'il y a la poutre dans celui qui s'aperçoit de la paille. Nous devons marcher d'un même pas. C'est écrit, c'est dit. On ne peut pas dire, moi, mon cheval de bataille, c'est ceci. Moi, je ne crois qu'à la louange. Bien sûr, c'est tellement important d'être des adorateurs en esprit, en vérité du Seigneur. Mais il n'y a pas que la louange. La louange, elle convient aux hommes droits. Si quelqu'un vit dans le péché et dit, béni soit Dieu, tout ce que je fais concourt au bien, ça ne marche pas. Et on ne pourrait pas marcher dans le même pas, parce que des fois, on peut falsifier la parole de Dieu, se tromper par des faux raisonnements. La parole de Dieu, elle est enseignée ici en toute vérité. Elle est enseignée dans la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu, il n'y a pas la parole de Dieu dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous devons marcher d'un même pas pour être certains d'être comme les vierges sages, elles étaient prêtes. Marchons par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 10, verset 7, il est dit, nous ne marchons pas. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ça, c'est important. La foi, vous savez, c'est ce qui nous a fait faire le premier pas. Et c'est ce qui plaît à Dieu jusqu'au bout. Parce que j'ai pris cette lecture d'introduction. Enoch marcha 300 ans avec Dieu et il ne fut plus. Mais il est dit dans l'Épître aux Hébreux, parce que Dieu l'a trouvé agréable. Il marchait dans la foi. Il a été agréable. Et puis, Dieu le prit. Or, il est dit de suite après, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, c'est important, frères et sœurs, de savoir, maintenant, Christ habite dans notre cœur par la foi. Éphésiens 3, 16. N'est-ce pas vrai ? Christ, où je vais le chercher? Je vais partir à Jérusalem. Dieu soit béni pour tous ceux qui peuvent y aller, qui vont y aller. Il n'y a rien d'interdit à ce sujet. Mais je ne vais pas chercher Jésus au tombeau vide que l'on représente à Jérusalem. Jésus, maintenant, il habite dans ton cœur par la foi. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Et la preuve que Christ habite dans notre cœur. Même Paul dira dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Alléluia. Mais c'est extraordinaire, marcher dans la foi. On ne va pas essayer de chercher quelque chose pour nous rappeler où est Jésus ou de trouver un endroit où on va le sentir davantage. Nous ne marchons pas par la vue ou par les sensations ou par toutes sortes de recherches miraculeuses que l'on peut provoquer. Mais la foi, c'est bien plus que cela. Seigneur, tu es là. Tu vis en moi. Alléluia. Mais il y a maintenant aussi l'acte, la foi. Vous savez, cet officier du roi qui a dit, « Jésus, viens avant que mon enfant meure. » Jésus a dit, « Si vous ne voyez des miracles, vous ne croyez pas. » Mais, « Va, ton fils vit. » Et il est dit que ce papa crut à la parole de Jésus. Et il a fait chemin vers la maison où il avait laissé son fils à la mort. Environ 30 kilomètres. De marche, où pendant tout ce temps, il garde en lui la parole de Jésus. Peut-être il a été assommé par toutes sortes de doutes, mais il a cru et il est resté ferme. Et quand il est arrivé, on est allé lui dire, « Ton fils vit. » À quelle heure ? Eh bien, c'est à l'heure où Jésus prononçait sa parole et que lui croyait que l'événement de la guérison s'est passé pour son fils. Je crois que parfois, nous pouvons oublier qu'il faut faire confiance au Seigneur, et pour la guérison, et pour tous les domaines de la vie. Il faut se mettre en marche et dire, Seigneur, je te fais confiance, je ne prie pas parce que c'est un mode ou une mode de vie quand on est chrétien, mais plus que ça, je prie avec foi. Parce que Jésus a demandé aux 10 lépreux, allez vous montrer au sacrificateur, il savait ce que ça voulait dire. Parce que le sacrificateur devait valider la guérison de la lèpre. Mais ils sont partis lépreux. Et ce n'est que pendant qu'ils étaient dans le chemin qu'ils se sont aperçus tous que la lèpre est partie. Ils auraient pu dire, mais Seigneur, nous n'irons chez le sacrificateur que quand il n'y aura plus de lèpre sur notre peau. Ils pourraient attendre encore aujourd'hui. Ils se sont mis en chemin. Et frères et sœurs, nous marchons par la foi. Il faut croire dans des situations où il y a des montagnes dans ta vie, où tu dis c'est impossible, aucun bulldozer, aucun détonateur qui fait sauter cette montagne n'y arrivera, bien sûr. Mais ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Et quand tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, eh bien, si tu ne doutes pas que ce que tu dis va arriver, tu le verras s'accomplir. Et nous avons besoin de revenir à cette foi qui s'élance et qui nous permet de dire, Seigneur, je suis tellement en communion avec toi pendant que je te le demande que tu as agi. Et parfois même, l'attestation dans mon cœur me dit que même si concrètement la chose ne s'est pas encore déroulée, elle est acquise. Et dans mon cœur, même, je prie pour des personnes dont je sais qu'elles sont sauvées alors que je les vois encore dans le mal parce que quelque chose, le Saint-Esprit m'a dit dans la foi qu'il les sauve. Alléluia. Et je crois que nous avons besoin de marcher ainsi dans la foi. Amen. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et puis maintenant, j'en arrive à cette foi où le Seigneur a dit, je souffle sur vous, recevez le Saint-Esprit. Très bien. Ils vont désormais marcher par le Saint-Esprit. Mais quelque temps après, il leur dit, vous allez attendre, acte 1-8, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et après, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et je crois que cette foi, il faut que nous l'ayons dans le cœur. C'est vrai, Jésus, tu es là. C'est vrai, nous marchons par le Saint-Esprit, nous marchons avec toi. Mais maintenant, il me faut la foi que tu vas me donner la plénitude du Saint-Esprit. Le monde attend que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Oh, ils ne le diront pas comme ça. Ils ne diront pas tout ça, ils ne connaissent pas ce langage. Mais le monde attend que nous fassions ce que nous sommes incapables de faire naturellement. Et pour ce faire, nous avons besoin d'être comme ces 120. Ils avaient la foi. Le Seigneur leur a dit, attendez, c'est pourtant urgent. Il faut aller dire à tout le monde qu'il est ressuscité. Tu nous as dit, Seigneur, qu'il faut aller par le monde. Alors, nous avons envie d'y aller. Non. Attendez, je vais vous donner quelque chose de supplémentaire, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous allez aller. Et l'Église, chacun d'entre nous qui voulons être des témoins, la lumière du monde, de celle de la terre, des ambassadeurs de Christ, recevons le baptême du Saint-Esprit. Par la foi, aucun mérite. C'est comme le salut, la même foi, vous la mettez dans le Seigneur. Il est dit qu'il est donné à ceux qui le lui demandent. Amen. Et cette foi, c'est important, frères et sœurs, de l'avoir pour être rempli du Saint-Esprit. Il y a des situations où les gens, je le disais tout à l'heure, sont liés, sont aveuglés et rien n'y ferait. Mais le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'avec le baptême de l'Esprit, en son nom, voici les miracles. Vous allez chasser les démons, parler des langues nouvelles. Vous saisirez les serpents, les breuvages mortels. Ne vous feront point de mal. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ils s'en allèrent. Ils se sont mis à marcher. Et ils en allèrent partout, partout. Et ils virent que le Seigneur confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu auparavant cette foi qu'il devait recevoir la puissance du Saint-Esprit et ils l'ont reçue. Et ils ont tellement pris goût qu'à certains moments où il y a eu une persécution, ils se sont mis à prier tout à nouveau. Ils furent remplis du Saint-Esprit parce que l'expérience du baptême du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire, il faut la renouveler, pas tous les jours, constamment. Soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. Alors, si on peut mettre des dates sur nos expériences du passé, telle date de mois de juillet, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Très bien, dira le Seigneur. Mais maintenant, si tu es tiède, si tu n'as plus l'esprit, si tu ne vois plus les perdus qui se précipitent vers la tragédie de l'enfer, si tu n'as plus à cœur ce que j'ai à cœur le plus au monde, alors reviens et sois tout à nouveau rempli du Saint-Esprit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le Seigneur fera de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Et je vais terminer par le fait où il est dit dans Éphésiens 5, verset 1er, « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. » La marche avec Dieu, c'est une marche d'amour. Vous êtes d'accord avec moi? Toute origine de tout ce que nous vivons avec le Seigneur est partie de l'essence même de Dieu, l'amour. Sans amour, tu peux donner aux pauvres, tu peux parler toutes les langues, tu peux avoir la foi, soulever les montagnes, tu peux donner ton corps à être brûlé en martyr, il est dit dans 1 Corinthiens 13, mais ça ne sert à rien. Sans amour, rien. Dieu est amour et il veut que nous l'aimions. Parce que lui nous a aimés le premier, c'est ce qui est possible. Ce qui est rendu possible aujourd'hui, c'est que nous pouvons aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Et je vais vous montrer une voie par excellence, dira l'apôtre Paul dans ses écrits aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12. Je vais vous montrer la voie par excellence. Parce que jusque-là, il montre les dons et la puissance des dons spirituels. Mais attendez, ne jouez pas les héros, ne faites pas du vedettariat. Il n'a pas dit tout ça, mais ça veut dire ça. Je vais avant vous montrer la voie par excellence, l'amour. Vous pouvez tout faire, mais sans l'amour, vous ne faites rien. Pourquoi ? Parce que l'amour, quand on voit la foi, l'espérance, eh bien, ça va encore passer. Mais l'amour, il ne meurt jamais. Il ne périra jamais. Et quand tu seras au ciel, tu vivras dans ce climat d'amour éternel. Et donc, il faut embrayer et passer la vitesse maintenant. La vitesse de l'amour. Si nous nous mordons les uns les autres, si nous nous déchirons les uns les autres, si nous nous critiquons les uns les autres, si nous ne pouvons pas nous voir les uns les autres, si nous sommes dans le non-pardon envers quelqu'un qui nous a fait du mal, mais où va-t-on? Il est dit, tu es comme un aveugle, tu as perdu la vue, tu ne sais pas où tu vas. Donc, tu ne peux pas vivre comme cela. Si tu aimes, tu es de Dieu. Si tu n'aimes pas, tu n'as pas connu Dieu. Que le Seigneur nous donne de pouvoir aimer. Vous savez que quand Pierre a eu ce reniement et que le Seigneur le retrouve au bord du lac, il va l'appeler, mais il ne va pas l'appeler « Pierre, tu auras un ministère de puissance ». Il ne lui dit plus « Tu vas sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Il ne lui dit plus tout ça. Il dit « Tu vois, Pierre, m'aimes-tu ? » Oui, Seigneur, paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu ? Ça fait réfléchir. Et je ne sais pas ce qu'il a osé dire, si c'est l'amour agapé ou l'amour philao, mais en tout cas, Il a dit, tu sais, regarde en moi et tu sais que je t'aime. Et tu vas t'occuper des agneaux, des brebis, et ça veut dire des brebis aussi qui ne sont pas encore dans la bergerie, mais à condition que tu aimes. Et si nous voulons servir Dieu, si nous voulons marcher comme le Seigneur a demandé, nous devons marcher dans l'amour. Il nous appelle tous à aimer et à nous aimer les uns les autres. Priorité au Seigneur, bien sûr. De tout notre cœur, notre force, notre âme, notre pensée, nous devons l'aimer. Mais notre prochain, comme nous-mêmes, impossible, Seigneur, je n'y arrive pas. Mais je le sais, dira le Seigneur, que tu n'y arrives pas. Mais regarde, mon amour, regarde quand j'ai vidé le ciel de ma présence et que les anges étonnés ont plongé leur regard sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé, Seigneur, de venir sur cette terre de misère, homme de douleur, habitué à la souffrance, rejeté, et pourtant tu as transcendé tout cela et tu nous as aimés dans son paroxysme à la croix du calvaire, attaché, agonisant, mourant pour nous. Qu'est-ce que vous voulez comme preuve de plus grand amour que celui-là, alors qu'il n'était pas obligé? Aimons Dieu maintenant, à cause de cet amour premier qu'il a eu pour nous, mais aussi aimons ses enfants. Parce que si tu dis que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Parce que la personne que tu n'aimes pas, que tu dis ne pas aimer, c'est aussi un enfant de ton père. Et seul l'amour peut arriver, et j'en arrive là, les miracles de l'amour. Les miracles de l'amour de Dieu, c'est d'aller trouver celui qui nous a fait du mal et lui dire, je veux la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Nous devons vivre dans cet amour précieux. Et puis à un moment donné, vous savez, ma langue physique, elle n'y arrive plus. L'amour de Dieu, il est ineffable. Comme l'a dit quelqu'un, la mesure de l'amour de Dieu, c'est un amour sans mesure. Il n'y a pas de mesure dans l'amour. Alors, aimons, et que le Saint-Esprit imprime cela au fond de notre cœur. Aimons-nous les uns les autres. Aimons notre prochain, notre semblable, notre espèce humaine, qui parfois, peut-être certains, sont répugnants dans leur façon de vivre, dans leur capacité de faire le mal avec une effronterie terrible. Et pourtant, le Seigneur nous dit, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer de mon amour. Et je veux l'aimer de l'amour du Seigneur. Cela, c'est possible. Parce que le Saint-Esprit a dit qu'il dépose l'amour de Dieu dans notre cœur. Alors, demandons-le. Demandons-le. Là, Seigneur, là, je ne peux pas. Là, c'est plus fort que moi. Eh bien, c'est à ce moment-là que je le disais tout à l'heure. Le Saint-Esprit intervient pour nous rendre capables de ce que nous ne sommes pas capables d'aimer. Aimer en pardonnant. Aimer en refaisant confiance. Aimer en oubliant même, avec la puissance et du Saint-Esprit, le mal que l'on nous a fait. Amen. Et puis, vous savez, quand on aime le Seigneur, on arrive à un certain moment, je l'ai entendu dans les louanges, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne voit pas toujours le final, parce qu'on est des êtres finis, lui il est infini. Donc on ne sait pas ce que cela signifie, aimer Dieu et se dire que tiens, je suis dans une situation très bloquée. Si ce serviteur de Dieu savait ce que je vis, il ne pourrait pas parler à cette assurance. Eh bien, je vais vous dire, aime Dieu. Et ce qui peut arriver va tourner au bien de toi qui aimes Dieu. Comment? Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps, à moins qu'il me vienne une prophétie. Je ne sais pas. Mais je crois que l'amour de Dieu fait des miracles. Et l'amour de Dieu en notre cœur fait des miracles. Et nous devons réellement nous y attendre puisqu'à un certain moment, vous savez, ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les hauteurs, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous savez, quand je regarde dans le Cantique des Cantiques, la Tsunamite qui cherchait son bien-aimé, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché encore et puis les gardes m'ont tapé, m'ont frappé, m'ont battu, m'ont enlevé le voile. Mais dites que je suis malade d'amour. Et malgré qu'elle a été frappée, empêchée, tous les obstacles, elle a cherché encore parce qu'il y avait une force motrice en elle. C'est l'amour. C'est bien sûr des images, le Cantique des Cantiques, mais dans la réalité, nous, rien ne doit nous arrêter du moment que l'on aime le Seigneur. Amen. Ainsi, frères et sœurs, en terminant, je voudrais vous dire ceci. La définition de l'amour, vous la savez, je vous préconise de lire, s'il vous plaît, tous les jours, ça ne prend pas longtemps, 1 Corinthiens 13. Lisez-le, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas quelque chose de magique, une technique quelconque que j'ai à vous dire aujourd'hui. Lisez la parole de Dieu, lisez 1 Corinthiens 13. Et après vous allez dire, ah, l'amour, il est patient, il est plein de bonté. L'amour ne se vante pas. Ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête. Alors jusque-là, c'est des mots, mais essayez d'y mettre des scènes dans ces mots. Voilà, cette personne qui m'impatiente, qui m'irrite, elle veut que je tombe dans la colère. Seigneur, par ton amour, je suis gardé, même, je suis élevé au-dessus. Et je ne donnerai pas cadeau à cette personne de me faire mettre en colère ou de lui rendre le mal pour le mal. Parce que l'amour de Dieu, que le Seigneur nous aide, que nous voyons la parole de Dieu et que nous puissions ainsi, eh bien, la pratiquer. Je termine et vous dis, marchez comme Enoch a marché à un moment donné. Il ne fut plus parce qu'il était agréable à Dieu dans sa marche. Je ne pense pas qu'on pourrait marcher 300 ans, c'est fini, la longueur de la vie comme ça. Mais plaise à Dieu que nous marchions avec le Seigneur à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut fournir des efforts? Je me lance un défi. J'ai entendu, Seigneur, je vais marcher avec toi parce que tu reviens, tu arrives. Et quand il est dit que, eh bien, Enoch a marché avec Dieu, et il ne fut plus parce qu'il a été enlevé. Nous savons que nous ne serons pas enlevés individuellement, mais le Seigneur va venir, il va nous enlever. Il faut qu'il nous trouve en train de marcher agréable à lui. Ça, c'est la garantie. Ce n'est pas seulement pour se sauver de la colère à venir, mais à un moment donné, ça devient de l'amour pour Dieu. Un échange d'amour de Dieu pour nous. Et cet amour qui s'irradie sur les chrétiens, nos frères et nos sœurs, et le monde, et les humains, et les malheureux qui ont besoin de cet amour qui pourra les conquérir bien plus que les hautes technologies en voyant que nous sommes semblables à Christ. Que le Seigneur nous aide.